Bonjour à tous et bienvenue dans L'Art, c'est les autres. Moi, c'est Leslie Lucier et je fais partie du réseau des artistes Pigeons et Hirondelles qui est basé dans Lyon. Dans ce podcast, je vais à la rencontre des acteurs du monde de l'art. Ce sont des passionnés qui vont nous aider à décrypter les milieux de l'art contemporain. Pour tous ceux comme moi qui ont envie d'y évoluer. Alors mon objectif, ça va être de remettre mes connaissances, mes jugements en jeu, grâce à ces mentors qui, pendant quelques dizaines de minutes, vont nous donner de précieux conseils, vont nous donner leur philosophie et tout ce qu'ils mettent en place dans leur quotidien et qu'on pourra appliquer, pourquoi pas, à nos propres projets. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à commenter les épisodes sur votre appli de podcast. C'est ce qui me donne le plus envie de continuer. En tout cas, merci d'être là et je vous laisse avec l'épisode de la semaine. Aujourd'hui, je reçois la galeriste Myriam Librache, qui est accompagnée de son bras droit, Martine. Elles gèrent toutes les deux la galerie 379 à Nancy. C'est au 379 rue de la Libération. Et actuellement, la galerie est en train de développer une partie de son activité en artothèque, qui est accessible à toutes les personnes du quartier. Voilà, toutes les deux vont nous parler de l'art, des engagements, et je vous laisse à notre entretien. Eh ben, bonjour Myriam.
Bonjour Leslie.
Bonjour Leslie.
On va commencer déjà par la galerie 379, c'est une galerie que tu as montée il y a 27 ans, c'est ça? C'est quoi l'histoire?
L'histoire, c'est l'histoire des engagements, en fait. C'est une histoire qui remonte à 73. C'est ce moment où, faisant des études dans une université à Aix-en-Provence, on s'est retrouvé avec des jeunes femmes artistes, étudiantes, aux prises avec un machisme extraordinaire et du côté de l'université et aussi du côté des grands procès des années 70, en particulier à Aix-en-Provence. Et il y a une double rencontre, une prise de conscience qui passe par la psychanalyse, le groupe Psychépo, la librairie des femmes à Marseille, nos engagements pendant ces luttes féministes et le fait qu'on se heurte frontalement au machisme dans les études d'art qui, pour notre part, était universitaire, mais globalement, ça jouait aussi à l'école d'art. Avec les idéologies marquantes de ces années-là, c'est-à-dire la toute-puissance de Support Surface, les idéologies en place. Bon, pour faire court, si tu veux, à un moment donné, ça s'est très bien passé pour moi sur le plan anonyme à l'université, au niveau des concours. Ouais. Et quand on a vu que j'étais une femme, ça s'est mal passé. Et donc, j'ai arrêté... Enfin, j'ai quitté le professeur qui dirigeait ma maîtrise à ce moment-là, j'en ai pris un autre. Et surtout, nous nous sommes organisées comme femmes artistes, comme jeunes femmes artistes, pour créer notre sorte d'université sauvage. Hein, okay. Nous avons posé les unes pour les autres, nous avons travaillé l'ONU et les questions de là, et nous avons fondé un collectif qui s'appelait 663-314. Tu vois,
je... Okay.
toujours dans les chiffres. Alors, c'était le compagnon de l'une de nous, le compagnon de Geneviève Lebon, qui s'appelait Antoine Debecq à ce moment-là, et qui nous a donné le format de l'enterrement à Ornans de Courbet, 6m63 par 3m314. Il y avait un enterrement, un trou, quelque chose, une faille, quelque chose dans le système. Nous tournions autour de cette question du manque, du trou, de tout ce que tu veux, tu peux associer à ce niveau-là. Et c'est cette passion, en fait, de travailler la question de la création personnelle et du collectif qui nous a occupés pendant 10 ans.
Ok.
Donc, nous avons fait nos expositions à Aix-en-Provence, à Marseille. La plupart des filles sont montées sur Paris. Et je peux dire que cette conscience du collectif qui venait de vie antérieure à Paris, de mon enfance et tout, mais on en parlera peut-être... autrement, là, ça s'est vraiment concrétisé pour moi. Tout ce que je dois à ce collectif, ça me plaît de dire les noms. Hein. Ouais. Voilà, je sais à qui je dois tout cette aventure exceptionnelle. Donc, Monique Kissel, qui était la plus âgée d'entre nous et très avancée dans les luttes féministes. Daniel Gibra, Corinne Mercadier, Barbara Pollack, Geneviève Lebon et moi. D'accord. Myriam Librac. Voilà, ce collectif. Donc, elles se sont installées rue Hélène à Paris. Mmh. Et là, moi, j'ai continué ma vie et j'ai été nommée à Nancy comme professeure de CAPES. Ouais. Donc, en 1980. Mais bon, à Paris, rue Hélène, elle vivait dans ce très grand atelier où chacune avait son atelier, mais les présentations étaient sur un couloir de 17 mètres collectif.
Ouais.
Ils organisaient des expos personnelles et j'ai eu une expo personnelle en 82 et une autre dans le cadre de la Biennale de Paris, lieu d'artistes, donc en 85. Ouais. Bon, je raconte ça parce que tout s'enchaîne. Hein, voilà. Moi-même, j'ai rencontré à Nancy, la ville où j'avais été nommée, où je travaillais ensuite comme professeur agrégé d'art. C'est une vie que j'ai menée sans perdre mon identité d'artiste, par ouais. chance. Donc, j'ai pu toujours être moi-même. Et dans mon atelier, je créais aussi pour moi, au milieu des élèves. Et ça a duré 30 ans. Donc, je peux dire toujours avec le lycée Barocco à Tomblaine qu'on a ri. On a travaillé et on a été heureux pendant 30 ans. Je dois le dire parce que dans ce grand lycée généraliste et scientifique, tout le monde s'en foutait.
Ouais.
Et donc, c'était merveilleux. Une liberté totale et une liberté telle que je l'ai payée, évidemment, d'une certaine façon, en euros, si je puis dire. Mais je me suis pas souciée non plus des inspections et de ce qu'on appelle les programmes. Hein. Mmh. Pour moi, l'atelier ouvert et la création fonctionnait dans la classe, fonctionnait hors de la classe, dans le lycée. Et si on n'en voulait pas de mes projets, j'allais les faire ailleurs.
Mmh.
Donc, c'est tout l'avantage aussi que donne l'agrégation, le poste très officiel, universitaire, ouais. etc. Mais bon, je l'ai fait, je l'ai voulu, et ça m'a donné de la liberté.
Tu étais prof d'art plastique, c'est ça ?
Professeur d'art plastique et histoire de l'art,
oui.
Mmh. Alors oui, c'est important de balayer un peu tout ça, de montrer que cette extraordinaire énergie qu'on a eue, moi, auparavant, à Paris, j'étais obligée de faire, d'arrêter mes études scientifiques et de me former comme institutrice. Mmh. Ça s'appelait l'École normale d'institutrice des Batignolles. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai découvert les arts plastiques et la possibilité de signer un contrat avec l'État après concours, mmh. qu'on appelle les IPES, et d'être payée. Mes parents étaient malades. Il a fallu que j'ai des sous.
Ouais.
J'étais très très jeune, voilà, comme ça. Mais bon, c'est difficile de faire abstraction de tout ça. Mais ce qui me caractérise, c'est dans l'ensemble une sorte de fidélité. C'est-à-dire que les noyaux d'artistes, poètes que j'ai rencontrés à Paris dans les années 70, j'ai continué à travailler avec tout en les mêlant à mes rencontres féministes. Mmh. Et ensuite, quand je suis arrivée à Nancy en 80, moi, j'ai cherché à construire quelque chose ouais. autour de ça. J'ai rencontré Daniel Monnier, donc le père de mes deux filles aînées, qui avait une association galerie, qui s'appelait Art Actuel,
okay.
et qui travaillait avec les plus grandes galeries à Paris. Dans ce temps-là, il connaissait pas le mot subvention. Donc, ça n'existait pas. Il a travaillé entre 75 et 87 et il a fonctionné avec les amis mécènes, des amis de la société civile nancéenne qui soutenaient ce projet, qui lui a permis d'avoir Bram Van Velde, Titus Carmel, Alechinsky, Michel Butor, Marcelin Plenet, tous sont venus. Ah non, si j'ai rencontré l'autre jour Gérard Titus Carmel à la galerie Lillebonne,
oui.
à Nancy, et il s'est souvenu très bien de sa présence à Nancy en 78.
Ouais.
Tu vois, donc moi je travaille naturellement et à cause de mes origines sur la très longue mémoire et l'enchaînement des liens et des circonstances. Après ça, donc j'ai participé à l'association Galerie Art Actuel à Nancy
ouais.
Jusqu'à la fin. Et ensuite, quand j'ai eu une maison avenue de la Libération à Nancy, j'ai vu qu'il y avait possibilité dans le garage de mon atelier de faire quelque chose. Donc ça s'est décanté entre 99 et 2001, faire des travaux, isoler un vieux garage tout humide et tout. Et nous avons créé cette association 379 en 2001.
Donc dès le début, c'était une association ?
Oui, on a créé l'association. Ouais. Et là aussi, c'est bien que je puisse le dire tranquillement et dérouler un peu l'histoire. Ouais. C'est que elle a été déclarée en préfecture en août. Fin août, je reçois un courrier d'Antoine Perrault qui dit on crée une fédération nationale des associations. Vous venez d'être créée. Voulez-vous adhérer à la charte déontologique de notre association qui consiste à honorer les droits de présentation des artistes? On est en 2001. J'ai répondu tout de suite et donc j'ai fait partie des 50 premières assos adhérentes à la FRAP. Ça m'a enthousiasmée parce que, si tu veux, ça faisait une synthèse entre notre idéal de partage et de militantisme féministe des années 70 et le doute que j'avais sur les possibilités mi-marchandes, mi-associatives d'art actuel, hein, qui travaillaient pas vraiment sur le lien de solidarité, qui travaillaient comme une grande galerie privée, mais juste avec des petits subsides ponctuels, un peu de la ville, surtout des amis. C'était ouais. trop fragile. J'avais besoin d'un support plus politique et plus construit. Et puis, j'ai pris conscience qu'il y avait des droits, même s'ils étaient bafoués. Il y en avait, construits après-guerre et consolidés en 57. Ces droits de présentation existent, mais ils existent surtout dans le spectacle vivant.
Oui, tout à fait. Ouais.
Parce que on peut faire grève hein, sur un plateau. Non, tu fais pas grève dans ton atelier. Oui, donc, pour soutenir les droits, il fallait une convergence, comme on appelle ça, une fédération. Tout l'intérêt de la FRAP, c'est qu'ils ont pris conscience, à partir des luttes du spectacle vivant en Avignon dans les années 90, il y a eu ces grandes grèves, ils ont pris conscience que l'artiste plasticien un par un, il tenait pas la route, ni dans son syndicat. Nous avons des syndicats d'artistes un par un. Le SNAP CGT, les syndicats de sculpteurs, les syndicats des photographes. Mais le plasticien, l'artiste auteur d'art visuel, image fixe, un par un.
Oui, bien sûr.
Et c'est ça qui m'a infiniment motivée à la FRAP. C'est l'adhésion des collectifs, des assos, quel que soit le nombre d'artistes qu'il y a dans ces collectifs et ces assos. Comme je te disais tout à l'heure, on arrive facilement à une liste de diffusion de 15 à 20 000 artistes.
Ouais.
Quant à nos 120 ou 200 assos, ou les 300 qui depuis le temps sont passés par là, mais tu sais que ça bouge beaucoup, elles essaiment. Les collectivités s'inspirent des textes que la FRAP édite et réédite des modèles de convention, du rappel à la loi. Nous avons été auditionnés à l'Assemblée nationale. Catherine Louineau a défendu les positions de la profession.
Ouais.
Hein, parce que c'est une profession. Au premier euro vendu, tu es inscrit tu t'inscris à la Maison des artistes, tu déclares, tu as des caisses de retraite, etc. C'est une profession. Mais contrairement à toutes les autres, c'est pas par la grève qu'elle arrive à se faire entendre, c'est par l'éthique et la position absolument effarante et scandaleuse de collectivités qui bénéficient de subventions pour tout ce qu'elles font et qui n'en attribuent pas cette ligne-là aux artistes qu'ils exposent. On connaît tous ces mairies qui non seulement payent pas les droits de présentation, mais taxent l'artiste en plus.
Oui, tout à fait. Oui.
Alors, on le connaît de la part du bar du coin aussi, qui se paye une décoration gratis qui, dans le principe, coûterait 15 000 euros. Ben là, non seulement c'est gratis, mais en plus, ils taxent l'artiste. Et j'ai même vu des bars qui font payer le pot au premier cercle, à l'artiste, à la famille, à ses amis. Donc, on a tout, on peut tout avec le plasticien. Comme théoriquement dans l'analyse et l'interprétation des œuvres d'art, on a toujours raison sur une œuvre.
Oui, tout à fait.
Hein, voilà. C'est pour ça qu'il faut développer d'autres stratégies, d'autres modes d'approche de la chose visuelle et voir l'immensité de son importance dans la culture humaine. Hein, voilà.
Je suis assez contente qu'on parle de ça parce que jusqu'à présent, j'étais assez dubitative sur l'intervention de l'État. Dans le milieu de l'art en France particulièrement, il y a un type de création qui est subventionnée et je sais pas si ces subventions sont pas un petit peu... Alors c'est pas que je suis spécialement contre la subvention, C'est que je me demande qu'est-ce que l'État il fout là-dedans, quoi.
C'est des vraies questions que Mitterrand, Jack Lang se sont posées à la suite de Malraux.
Oui.
En fait, on il partait pas d'une méditation sur quelle place on peut prendre. Il partait d'une observation de l'énorme écart entre Paris et province et le fait que les œuvres et les œuvres contemporaines étaient au Fonds national d'art contemporain, beaucoup d'acquisitions historiquement depuis très longtemps, que les grands événements étaient dans la capitale et dans quelques villes qui avaient su, dès le 19e siècle, se positionner dans leurs collections, comme Saint-Étienne, Grenoble, certainement des villes du Nord aussi, comme Lille, disons 4-5 villes en France, avaient une politique de l'art de leur temps active des avant-guerres et ensuite après 45. Mais la remarque de Malraux était tout à fait exacte, il y avait un fossé extraordinaire. Et à la fois par la politique du 1% pour tous les bâtiments et ensuite le relais que prend Jack Lang en disant on va mettre de l'art contemporain dans toutes les régions en créant les fonds régionaux d'art contemporain, les FRAC, visait à réparer cette déchirure extraordinaire, hein, de donner accès aux habitants dans la proximité, dans le territoire, à des œuvres de qualité. Je te dis encore, il y a eu des assauts et des villes qui ont eu l'intuition et le talent de le faire et le goût politique et tout. Mais dans l'ensemble, tout le monde s'en foutait.
D'accord.
Et donc, il y avait cette espèce de provincialisme dormant, absolument insupportable. Ce clivage incroyable qui a été vraiment modifié par la politique des FRAC. Disons que ça a posé la question.
Ouais.
En posant d'autres problèmes.
Super, oui, bien sûr,
que faire maintenant des 35 000 œuvres qui dorment souvent dans les fracs?
C'est 40 ans, ça.
Voilà, mais ça, cette analyse des fracs, c'est une autre conversation, mais c'est bien de poser la question et de tenter quelque chose.
Ouais.
Ça, on peut pas nier que ça a changé complètement le paysage.
D'accord.
Et t'as raison de dire, alors qu'est-ce qu'on achète dans ces fracs? Donc c'est une vraie question et on peut s'y attarder parce que moi j'arrive à Nancy en 1980, cette politique commence et nous avons la chance d'avoir un conseiller artistique exceptionnel, Gabriel Dis à Metz, qui commence à regarder autour de lui les assauts, ce qu'il y a, et il prend par là la suite de Jean-Yves Beignet. Alors Jean-Yves Beignet à Strasbourg est un personnage extraordinaire qui couvrait l'Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne et Bourgogne en allant dans tous les ateliers et en acquérant pour sa ville et pour sa région, parce que l'Alsace a toujours eu cette politique qui est une politique germanique, mais de reconstruction et surtout de goût pour la chose contemporaine, mais qui vient de cette culture-là. Et donc, il avait cette curiosité de visiter les ateliers, d'acquérir les œuvres, que ce soit pour le Fonds national d'art contemporain ou pour quelque chose qui ressemblait à des fonds régionaux ou des fonds de ville, tu vois. Mais Strasbourg et l'Alsace, très, très active. Et très rapidement, il passe la main pour la Lorraine à Gabriel Dis. Et alors là, Gabriel Dis prend acte des assauts, et en particulier d'art actuel à Nancy, et d'une personnalité exceptionnelle qu'on avait à ce moment-là, qui est Bernard Huin, le directeur du musée d'Épinal, qui lui, alors, grâce à Guy Lozac, sillonne les ventes aux enchères et achète des œuvres d'artistes américains, achetées, on ne sait pas comment, et vendues très peu cher dans la région. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des Tony Long, avec des Serra et tout, au musée d'Épinal.
Incroyable.
Voilà, ça c'est encore une autre histoire. Oui. C'est la méconnaissance qu'ont parfois les départements et les régions de leur propre richesse. Hein. Moi, je vais au musée d'Épinal, je m'éclate. Hein.
Ouais. Bon,
la collection Camille Longtemps, plus maintenant, mais donc avec les Annette Messager et les plus grandes artistes femmes. Et puis on a les grands Américains, on a tout et personne le sait. Donc t'es seule dans les salles et c'est merveilleux. Voilà. Bon, enfin, ça, c'est le miracle de la province.
Donc,
aussi,
allez voir à Épinal.
courez à Épinal. Donc, ça, c'est une énorme parenthèse qu'on fait là. Mais, donc, reprenons un petit peu sur les associations. Donc, tu vois, Nancy 80, il y a tout ce travail fait par Art Actuel depuis 75, qui a montré des Joseph Beuys, qui a montré tout. Et tout, en coordination avec les écoles. Alors c'est ça qui est formidable. Quand il y a rien, ben les gens se rassemblent. Donc on avait la direction de l'école des Beaux-Arts, la direction de l'école d'archi et du Goethe-Institut, et tout le monde travaillait et venait à Art Actuel et rencontrait Valerio Adami, Michel Butor et voilà, moi j'arrive là-dedans et ça m'a passionnée, et donc
ça
j'étais avec voilà Daniel Monnier jusqu'à la fin de cette aventure. Et après ça, il y a eu cette prise de conscience que je pouvais faire quelque chose dans le local de mon dans le rez-de-chaussée, le garage de mon atelier, mais que voilà, il fallait l'équiper, tu vois. Et là, j'apprends le fonctionnement de la subvention, de la demande à la ville, ouais. Du rapport aux politiques. Que voilà, ouais. Je n'avais pas saisi à ce point-là.
Je vais prendre des cours parce que
là, bon, il se trouve que ça s'est bien passé avec André Rossineau. Ses élus comprenaient, c'était une petite somme et une compréhension aussi immédiate de la part de la région Lorraine avec Masseret. Enfin, ça s'est bien passé, oui. Gentiment, ça a progressé jusqu'à aujourd'hui, tranquillement, avec des hauts, des bas, qui sont le jeu du politique. Alors, ta question allait encore un petit peu plus loin, je crois. C'était lié à la frappe, c'était lié au militantisme.
Oui.
Si tu veux, la richesse du travail à la frappe, j'y suis entrée l'assaut était adhérente tout de suite, et ensuite je suis rentrée au conseil d'administration à partir de 2004, je crois, jusqu'à 2009. Donc, au CA, on apprend. Un CA, un tour de table où on avait presque une personne par grande région. Donc, ces gens nous racontaient ce qui se passe en France. Ces régions qui portent, comme évidemment Nord-Pas-de-Calais.
Ouais.
Et je te raconterai l'anecdote de Martine Aubry qui un jour réunit ses maires, les maires des villes, ouais. Tout autour, dit « Vous ne créez pas cette ligne sur les droits d'auteur, je vous supprime les subventions. » Donc quand tu as quelqu'un comme ça, une force politique qui appuie sur ces choses-là, qui dit « Il faut créer dans votre... descriptif des subventions que vous votez, la ligne pour les droits d'auteur dans les assos, vous créez ça, sinon moi j'arrête.
Okay.
Donc on a ce progrès fait par ces régions-là, les Landes, Nord-Pas-de-Calais.
Les Landes aussi ont participé à ce genre de choses.
Il y a eu des moments très très intéressants. Ces moments, ils sont, c'est assez curieux. C'est l'intérêt du politique, de son technicien, de quelques personnes qui comprennent la loi et qui se disent mais je suis hors la loi là, il faut que je l'applique, voilà.
Et
tout ça mobilise un service et ça va durer le temps du mandat. Si le mandat suivant on dit rien à faire, on fait que du patrimoine et de la danse folklore et ça va bien les contemporains, on n'y comprend rien et c'est tout à la poubelle, c'est mort et faut tout recommencer. Et c'est la discussion qu'on a en ce moment avec nos CA, nos assos et tout, trouver cette continuité, cette façon de tisser sur un terme un peu plus long que le mandat, une politique qui devrait être l'évidence, qui devrait être...
Mais d'ailleurs, c'est surprenant que les artistes aient eu le droit à la formation professionnelle qu'en 2011, il me semble.
Enfin, ils ont toujours cotisé et ça tombait dans d'autres caisses. Ouais. Alors, on peut pas dire qu'ils aient toujours cotisé. Il y a une orientation de la caisse qui faisait que, bon, apparemment, ils ne cotisaient pas, mais si.
Ouais.
Et à partir du moment où ils ont cotisé, il y a eu beaucoup d'argent, parce qu'ils travaillent longtemps.
Eh oui.
Eh oui. Ils travaillent longtemps, il n'y a pas de retraite.
D'accord. Et du coup, là, cette aventure 379, comment...
Alors, cette aventure 379, elle se fait par la richesse aussi des liens, des contacts, des artistes... que je connais depuis fort longtemps.
Donc, c'est les artistes qui t'ont donné le réseau ?
Oui, on peut dire comme ça. On peut dire que c'est...
Parce que j'imagine que quand on gère une galerie, associative soit-elle, il y a... Ouais, c'est le fait d'avoir des artistes de qualité que vous choisissiez qui fait que les amateurs viennent forcément et potentiellement achètent.
Alors, c'est pas une galerie privée où on achète. Hein. C'est vrai qu'il y a un fonds. Si tu veux, avec Art Actuel, j'ai appris un peu le métier, parce qu'avec Art Actuel, on travaillait avec les galeries parisiennes, et en particulier la galerie Putman, qui montrait Bram Van Velde. Et donc, avec Jacques et Catherine Putman, que je connaissais, qui sont décédés tous les deux, j'ai appris J'ai appris qu'une exposition, on en profite pour éditer quelque chose et on garde des œuvres. Mmh. C'est la base du métier. Bien que je n'ai que 379 soit pas une galerie privée, hein, puisque j'ai eu mes revenus par mon métier, c'est une association. J'ai toujours appliqué les règles de la galerie professionnelle, qui garde un fonds, qui le valorise, qui le renouvelle et qui profite de la présence de l'artiste et de son travail pour éditer quelque chose qui soit propre, qui soit original, qui mène une petite trace, qui garde une trace. Hein.
C'est hyper important ça, parce que même pour les artistes, j'ai l'impression que, oui, parfois on ne gagne pas tout de suite très bien, mais se positionner en tant que professionnel, c'est aussi ça, c'est-à-dire garder des archives, c'est-à-dire ranger son travail et se comporter comme un pro jusqu'à le devenir, financièrement, je veux dire.
On n'en est pas là. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'éthique et de la façon de considérer le travail, enfin, c'est vrai qu'on essaye de trouver dans le travail de l'artiste déjà quelque chose de possible et que on s'intéresse aussi au fait qu'il existe par des petits tirages, par des choses comme ça. Et très récemment, nous avons eu une emprunteuse d'une œuvre de Noémie Flagel qui a dit « mais moi, je veux la garder
ouais. ».
Et c'est nous qui avions édité cette petite série, 40 exemplaires. On était ravis de lui dire « voilà, madame, nous gardons le numéro 1 encadré, mais vous partez avec le numéro 12 ».
Ouais.
Et elle a donc acquis une petite édition. Elle a cru que c'était celui qu'elle avait loué qu'elle devait, mais on lui a dit non, c'est une édition. Donc vous voyez, édition 379, donc vous pouvez en avoir ce qu'on appelle la multiple originale. Et ça, c'est très important pour moi. On l'a fait toujours avec des moyens modestes, mais on a fait donc des éditions où textes et œuvres s'articulaient, la fonction poétique qui a permis à 20 artistes de faire 20 numéros avec des originaux, 20 originaux dans 20 plaquettes par artiste 20 fois.
Ouais.
Donc vous voyez, c'est des petits gestes qui alors pourquoi sont-ils rendus possibles? Parce que du côté du graphiste, nous avons des amitiés qui viennent des réseaux de la FRAP, en particulier avec Brigitte Cole, donc à Firmini, qui est une graphiste professionnelle, mais qui va évidemment pas chiffrer
oui, bien sûr,
le tarif. On va travailler avec l'association de Brigitte et avec ses projets. Elle va exister à Nancy lorsqu'elle passe vers l'Allemagne. Ouais. Nous allons à Lyon, à Saint-Étienne, à Firmini et ailleurs par ces réseaux-là. Et donc le travail se trouve mêlé. Hein. Le travail associatif, dans des conditions exceptionnelles de solidarité, trouve son sens parce que le réseau vit et on échange.
Ouais, voilà. Tout à fait.
On échange. On est dans ces termes d'échange.
Ouais.
Voilà. Ce qui n'est pas le cas, si tu veux, des très grosses structures comme un FRAC. Un FRAC va avoir une charte avec ses graphistes, payer les vrais tarifs. Ce sont des sommes extraordinaires. Ce sont des budgets extraordinaires de stockage, d'édition, de tout. Et parfois, son personnel pour diffuser les œuvres n'est pas à la hauteur de tout ce qu'ils ont mis en œuvre pour les faire exister. Ce qui fait qu'on a ces dizaines de milliers d'œuvres qui dorment dans nos réserves et qui pourtant ont bénéficié de soins exceptionnels de type muséal, du type très très grand professionnalisme de ces gens-là. On a cet étrange...
Paradoxe
entre le soin apporté à la constitution, conservation et connaissance théorique des collections et l'ignorance des grands publics, la désertion des lieux où devraient être ces œuvres. Et je suis très 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 occupée par ces choses-là. On a beaucoup insisté, on a eu une petite modification pour le FRAC Lorraine qui a commencé à vraiment placer ses fonds dans des lieux. Et je suis très très proche de ces questions et toujours prête à y travailler avec les responsables. Là, on a la chance, on a trois nouvelles directrices des trois FRAC de notre région. Elles sont toutes arrivées cette année. Donc on repose les questions, on retravaille là-dessus, la question des FRAC. Ouais. C'est-à-dire la diffusion des œuvres. C'est très paradoxal. On a des collectivités qui n'appliquent pas la loi du 1%, donc construisent du bâtiment public sans œuvre d'art. Et à côté, tu as des fracs qui ont des stocks d'œuvres extraordinaires qui ne sortent pas parce qu'ils trouvent que ce lieu n'a pas toutes les contextualités de sécurité, de surveillance, de couleur des murs, de tout ce que tu veux. On est dans une impasse. Hein, ouais. Voilà. Et moi, j'aime bien être dans ces endroits où ça craint
ça
beaucoup,
coince.
Où ça coince beaucoup, parce que c'est la vérité.
Ouais, ouais.
C'est le moment de vérité. Ça va devenir, pour nos populations qui ont payé ces heures, hein, depuis 81, ce sont nos impôts, ça va devenir absolument insupportable de savoir qu'il y a 10 000, 15 000 œuvres qui dorment là et qu'il n'y a rien. Les enfants peuvent même pas sortir des écoles parce qu'il n'y a pas les trois accompagnateurs obligatoires pour faire 100 mètres, etc., qu'il n'y a pas eu de 1%. Etc., etc. Les chiasmes, les trop grandes richesses concentrées à certains endroits et qui pourraient être disponibles, cette tension de l'intelligence, du conflit moral et politique vont devenir absolument criants. Je trouve que c'est des vrais arguments pour défiler le samedi, mais j'ai pas vu de gilets jaunes brandir la bannière des fracs.
Mais d'ailleurs, oui, c'est quelque chose qui m'a
pas de culture. Il y a pas de culture.
Il y a pas de culture. Hein,
parce qu'il y en a pas. Parce qu'il y en a pas. Parce que il y a des béances dans le travail de l'école, du collège, du lycée. Il y a des manques de moyens. Il y a des disproportions de moyens.
Ouais.
Il y a des enfants qui ont tout eu, qui connaissent leur musée, leur région, leur collection ancienne et contemporaine par cœur, des petites minorités, puis t'as des enfants qui sont passés à travers les mailles du filet, à chaque fois le prof était absent, pas remplacé, au fond d'un collège, rien, et qui sont passés comme ça. Et t'as ça. Je l'ai vu pendant 30 ans, j'étais donc enseignante, j'ai vu comment ils arrivaient en seconde, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et tout, ça a été passionnant de travailler ça.
Et l'artothèque, du coup, c'est un peu...
Alors, l'artothèque, l'artothèque Alice...
Qui répond à ça.
On revient vraiment au présent du présent.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que, quelque part, l'artothèque, ça... Il y a vraiment cette question-là de...
Je dirais qu'on va avoir l'artothèque de l'intérieur. De l'intérieur, ces fameuses subventions... À force de réfléchir sur tout ça et de prendre la mesure de ce que peut par exemple une ville comme Québec ou quelques grandes villes en France qui savent subventionner leurs assos collectifs et réseaux de diffusion, je trouvais que le travail qu'on faisait devenait indécent, je vais te dire.
D'accord.
C'est-à-dire que je trouve là que quand tu veux donner 1000 et que tu donnes 150, à un moment donné, ça va pas, quoi. Ça va pas. Donc, ça c'est la première chose. Mais bon, c'est une observation qu'on faisait depuis longtemps, et puis on était quand même content de le faire. Et puis, nos artistes n'ont jamais payé pour exposer.
Oui.
Ils ont toujours reçu quelque chose, mais de notre point de vue, de plus en plus trop peu.
Oui,
on va dire comme ça. Hein, de plus en plus, c'est un trop peu qui devient un petit peu aberrant, quoi, quand on a une exigence éthique.
Oui.
Ça, c'est une première chose, mais c'est pas le moteur exactement. C'est que, depuis 2001, on a fait 200 événements expositions.
Ouais.
Et on a montré 4-5 générations. On a montré des gens comme Michel Canter, nés dans les années 20-30, ou des Jacquelina, ou des gens décédés aussi. On a montré des très jeunes, pas encore sortis de l'école.
Hein. Ouais.
On a fait des troisième années remarquables, et voilà. On a parcouru des générations d'artistes et on a donc eu cette habitude d'avoir un fond, de garder des œuvres, etc. Et si tu recolles un peu tous les éléments qu'on vient de voir et la position politique dans laquelle on est, le fait que les gens du quartier disaient « oui, on sait qui vous êtes, mais c'est pas pour nous ».
Exactement.
Voilà. Alors les gens disent, ils voient le mot « galerie », ils pensent qu'il faut entrer et acheter. Parce que tout ça vient des informations sur le marché de l'art monstrueux. Ils mélangent évidemment tout. Ils n'ont pas l'idée qu'une galerie associative, c'est un lieu à 0 € l'entrée, ouvert. Et le but étant de partager une expérience du regard et de la rencontre et pas du tout se ruer sur eux pour le carnet de chèques. Enfin, bon, bref. Alors... Tu vois, ce mélange du fait qu'on est, allez, je dirais 15 personnes de ce grand quartier des 4B où on est, et les 1000 autres venant de partout ailleurs, ça commence à faire vraiment un écart un peu gênant.
Ouais.
Hein. Voilà, ça, La fatigue.
Eh oui, bah oui, parce que quasiment 30 ans,
voilà,
de
ça, voilà.
En plus du travail.
Oui, à partir de 2010, j'étais en retraite, si tu veux, donc oui, ça allait. Mais enfin, quand même. Mmh. Et puis, ce goût du partage. Enfin, ce goût, voilà, que les, comme tu dis très bien, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils regardent, les gens? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont l'écran, et puis après, ils pensent que tout est inaccessible. Donc, tout cet ensemble-là, plus la connaissance que j'ai par d'autres amis, Cécile Carpena qui me montre l'Artothèque de Caen, c'est absolument extraordinaire. Artothèque, on en voit, on en montre. Une amie à Vox, près de Manosque, qui a créé vraiment, tout, tout petit niveau, mais une Artothèque où j'ai été invitée à poser des œuvres. Donc j'ai vu à Vox, ça s'appelle L'Art en Partage à Vox.
Alors, ah, j'en ai entendu parler là.
Voilà, Frédéric. Donc, tout ça fait que, ah oui, ça c'est intéressant. Donc, en association, on parle, hein, c'est son but, c'est parler. Et donc, dès, on peut dire 2015 à peu près, on a commencé à envisager que ça serait pas mal. Alors, comme nous, on travaillait toujours avec 2 ans de programmation à l'avance, oui, pour être tranquille et justement pouvoir se faire des surprises. Ouais. Plus tu prévois longtemps à l'avant et plus tu peux faire des écarts à ta programmation ou, des, ou rajouter des choses et tout. Donc, on a honoré tous nos engagements jusque 2018, oui, oui, voilà. Et on a pu méditer, réfléchir, concevoir, en étudiant d'ailleurs les fiches de prêt, les fiches d'emprunt des autres artothèques, grâce à Brigitte et OCA et tout, ben, on a construit un petit outil de fonctionnement et on l'a testé le 15 mars. Donc tu vois, 15 mars 2019, c'est le premier grand week-end de notre artothèque. Et donc là, on va commencer le troisième, le 22 juin. On était D'accord. 26 avril et 22 juin. Voilà, voilà. Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a commencé par une gratuité totale, sans adhésion, sans rien, juste les papiers, le 15 mars, pour les habitants des 4B. Hein, et on a eu 12 prêts, je crois.
À peu C'est vrai?
12 prêts et 70 visites de gens qui disaient « je suis pas dans le quartier, mais je voudrais bien ». Et on a cédé.
Pour quelques-uns.
pour 2 ou 3 d'entre eux, on a cédé. On a dit « bon, c'est bon ». C'est bon, on était très très contents. Très content. Et on était toutes les deux, et c'était pas de trop, hein.
Ouais,
parce
ouais,
que il y a, et puis surtout, on, bon, c'était un événement, comme toujours avec 379, comme on est excentré, on s'attache toujours à des grands événements, à la fois urbains et régionaux. Et là, on a accroché le 15 mars, au grand week-end d'art contemporain du Grand Est.
Oui.
Qui est proposé par les réseaux. Les réseaux qui fédèrent les lieux d'art contemporain de notre grande région. Donc Laura, notre réseau s'appelle Laura, Lorraine Art Contemporain. Le réseau alsacien s'appelle Versant Est et le réseau Champagne-Ardenne s'appelle Bulle.
D'accord.
Voilà. Et ces trois réseaux ont l'habitude là depuis 4 ans de faire un grand week-end d'art contemporain avec des bus de l'art qui circulent d'une région à l'autre, d'un lieu à l'autre.
Il vous manque plus qu'une caravane là-dedans.
Il y en a presque une. Il y en a presque une. Oui, 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 oui. Ah oui, parce que tu as une,
oui,
Leslie, tu as une caravane, donc voilà, on va pouvoir discuter de tout ça, donc c'est très très bien. Et donc on a attaché notre premier week-end centré, et on a voulu, pour ce premier week-end centré sur le quartier, mais qui a accueilli tout le monde, inviter une structure art-tech nomade qui existe depuis 2001 dans notre région, et qui s'appelle Plus Vite, qui est animé par Olivia Chaponnet. Et donc, on a dit à Olivia, ta structure nomade, qui rentre dans une grande voiture, pliée, envahit 379. Donc, on a eu ce double événement d'ouvrir l'artothèque et de se laisser envahir par une artothèque nomade qui, elle, a une politique extraordinaire, mais très liée à la médiation, hein, qui est complètement articulée au protocole de découverte des œuvres, de dialogue, de discussion que Olivia et son équipe ont élaboré depuis de longues années déjà. Et notre chance, c'est qu'elle soit coprésidente avec Aurélie Amiot, la galerie Modulab à Metz.
Oui.
Elles sont coprésidentes de l'ORA et elles insufflent cette politique de circulation, de médiation, de diffusion pour nos 35 structures de Lorraine. Voilà. Mais ça, c'est encore tout un autre aspect de l'engagement de 379, d'être présent dans ces réseaux-là, de prendre sa place, d'aider ou de, en tout cas, de réfléchir à toutes ces problématiques, sachant qu'il y a une histoire fort différente avec Bulle, avec la Champagne-Ardenne, qui a une toute autre histoire son réseau. Et encore une autre histoire bien antérieure avec Versant Est.
Et donc ça veut dire que ce genre de réseau, on en trouve dans toutes les régions et départements de France ?
Oui, il y a une sorte de volonté politique que... Le politique, si tu veux, il aime bien voir une seule tête. Hein. Alors quand il y en a 35 qui arrivent... il dit, vous voulez pas Et donc c'est né pour ce... Je peux parler plutôt de Laura.
Oui, bien sûr.
On a travaillé beaucoup en 2001 avec Octave Cobel et Hervé Fouché, à travers un premier réseau qui était la frappe interassociative, c'est-à-dire les réseaux régionaux de la frappe. On a voulu structurer ça. Et à un moment donné, on a trouvé à la fois cette articulation de se connaître entre nous, de ce qu'on appelle, nous, connaître notre secteur, se connaître, connaître nos artistes. Et on a trouvé la bienveillance de la DRAC, Estelle Berruyer, qui a su dire, là, maintenant, on va vous aider à vous structurer en réseau et en cherchant l'argent aussi pour un professionnel, pour un poste salarié, pour un salarié. Voilà, la grande aide d'Estelle Berruyer, notre déléguée DRAC aux arts visuels, ça a été cette co-construction avec l'amorce du réseau qu'on avait fait, qu'Hervé Fouché est essentiellement su structurer, parce qu'il avait un charisme extraordinaire et capacité de synthèse aussi. Donc il a posé tous les jalons, il a quitté la région maintenant, mais ça travaille toujours dans ce sens-là, avec des équipes différentes actuellement, donc avec la présidence de Modulab et de Plus Vite, donc Aurélie Amiot et Olivia Chaponnet, voilà. Et un CA et tout ça. Voilà. Tu vois, pour parler de 379, c'est une place modeste qu'on prend là-dedans, toujours en essayant de voir où est la question. Où est la question du politique, où est la question des besoins des artistes. Et là, on voit avec Martine à quel point il y a des potentialités dans certaines villes pour articuler tout ça dans des lieux. Et on sait quand même que le politique a pas beaucoup d'imagination. S'il en avait, ça se saurait.
Donc, il est pas là pour ça. En tout cas, c'est pas la place qu'il a prise.
Et il y a des moments où il y a une convergence entre...
Le politique, aujourd'hui, il travaille dans l'urgence. Et donc, l'art, ce n'est pas son urgence.
Oui, bien sûr.
Si on peut résumer, j'ai ce sentiment-là.
Alors, c'est important ce que dit Martine, parce que travailler dans l'urgence... a pour conséquence de faire des événements événementiels, éphémères, rapides, spectaculaires et qui adhèrent éventuellement dans son fantasme un électorat potentiel. Si tu veux, ça va.
Immédiate.
Voilà, ça va exactement avec ça. D'un côté, tu as l'analyse fort juste, et d'un autre côté, tu as le type de réponse. Et nous, on est exactement à l'inverse de ça.
Ouais,
nous,
tout à fait.
Cet art visuel qui naît avec l'espèce humaine il y a 300 000 ans, c'est juste des grottes qui ont besoin de se matérialiser et avec bon accueil et avec des ouvertures et sans la menace d'être fermée d'un jour à l'autre parce que la subvention est tombée. Et ça me permet de te dire que nous, qu'est-ce que nous mesurons à la frappe depuis qu'il y a cette politique des très grandes régions, de l'urgence, de bricoler les choses pour garder quand même une main électorale et tout, c'est qu'on a 20% des assos qui ont fermé la porte, qui n'ont même pas eu le temps de déposer leurs archives. Un travail parfois de 20 ans, 30 ans, qui disparaît dans la nature comme ça, parce qu'il n'y a pas eu cette fiabilité, cette construction solide qui permet de dire « Ok, on rentre dans une période difficile, mais on vous maintient dans telle et telle condition, un an ou deux, pour que on refasse peut-être une convention, qu'on refasse quelque chose. » Non, il y a cette brutalité aussi du politique, qui n'est pas conscient des drames culturels qu'il suscite.
Et du coup, est-ce que vous auriez toutes les deux un conseil à donner à des jeunes artistes qui voudraient se regrouper?
Oui, ah bah c'est ce que tu dis. Restons groupés.
Groupons-nous. La réponse est dans la question.
La réponse est dans la question. Groupons-nous et restons groupés et sous des formes variées. J'ai vu récemment des jeunes artistes qui sont dans 3-4 assos. C'est fort sage. C'est fort intelligent. Et il y a une asso qui va lui permettre de partager un atelier, il y en a une autre où il va faire un travail intellectuel parce qu'il en a besoin et que ça colle à ça et que ça se fait à l'emporte-pièce un peu n'importe où et que c'est pas ça qui compte, c'est pas le lieu mais c'est le projet, et qui dans une troisième asso il va trouver un réseau de poètes, d'écrivains, etc. Voilà. Et tissons comme ça des complexités et ayons quelques bases matériel, je dirais, de bon accueil, de lieux où il y a de la pensée, du droit, du droit qui s'exerce, des capacités de monstration et une bonne articulation de l'existant. Parce que là, comme je te disais tout à l'heure, et ça me travaille beaucoup en ce moment, il y a eu cette richesse des années 80.
Ouais.
Et pour moi, c'est absolument insupportable qu'il y ait des œuvres absolument formidables et qui dorment littéralement. Donc, je profite
mais vas-y.
De ça pour dire que nous, dans nos expositions qu'on a fait dans la galerie municipale qui s'appelle Neuf rue Gustave Simon, avec ma commissaire Pauline Lisowski, nous avons essayé d'amener autour de notre artiste, qui était donc le centre de notre action à ce moment-là, nous avons essayé d'amener des œuvres, des fracs, en écho, en relation avec son travail.
D'accord.
Et ça nous a pris un mal infini, mais Pauline est tenace. Et voilà. Et elle, son argumentaire de jeune commissaire et historienne d'art a porté. Et pour entourer l'exposition de Guillaume Cochinère, nous avons obtenu des prêts du FRAC Lorraine, du FRAC Alsace, à Célesta, et du FRAC Champagne-Ardenne à Reims.
Un gros travail.
Et nous avons essayé de renouveler cette expérience, mais tout dépend du type d'observation que le FRAC va faire. Alors, quand le FRAC dit « nous passons outre le fait que Galerie 9 n'est pas aux normes », ça fonctionnait une fois. Et là, ça n'a pas fonctionné la deuxième fois. Effectivement, la Galerie 9, qui se pose comme une galerie d'art contemporain menée par la ville, enfin tenue, dont les murs sont tenus par la ville, il n'y a pas de politique, mais il y a en tout cas des murs, elle n'est pas effectivement aux normes de ce que peut exiger un grand fonds d'art contemporain.
Mais en même temps, toutes les villes...
Mais en même temps, nous donnions l'assurance par nos équipes, par nos commissaires et tout, que tout était gardienné. Nous, avec 379, nous assurions les œuvres.
Ah oui.
Le deuxième coup, nous n'avons pas réussi à avoir ces œuvres. Donc, notre commissaire, qui ne lâche rien, est allé les chercher chez les artistes eux-mêmes.
Ah oui, d'accord. Ah oui, effectivement. Ouais.
Voilà. L'œuvre était au FRAC. Elle a fait le chemin d'aller dans la galerie ou de l'artiste ou dans l'atelier de l'artiste les chercher. Mais nous n'avons pas lâché là-dessus. Donc, ce qu'on avait dit à l'issue de l'exposition Cochinère, c'était d'encourager, tu dis, ayons une parole à transmettre aux jeunes artistes et tout. Je pense que tous nos réseaux, nos collectifs, nos assos, quand elles ont la chance de pouvoir exposer leur artiste, de faire un travail commissarié avec une réflexion et tout, doivent demander des œuvres dans les fracs, des œuvres en écho qui enrichissent, qui correspondent et qui entourent et qui permettent aux gens de se dire « Ah oui, donc cet artiste, il mérite d'être aussi entouré par ses œuvres achetées par mes sous, mais dans des collections qui me paraissent stratosphériques ou éloignées de mes compétences. » Et du coup, ça rapproche aussi les fonds. Quand les gens ont vu l'œuvre de Coubard-Wilhelm sortie comme ça de Reims pour la deuxième fois en 30 ans, c'était merveilleux. C'était merveilleux de voir ce livre de marbre comme ça, à côté d'une œuvre en marbre de Cochinère. Mais plus jamais ils oublieront. Et à la fois l'œuvre de Guillaume et à la fois l'œuvre des Coubard-Wilhelm. Et nous avons fait ça pour une dizaine d'œuvres des fracs. Tu vois? C'est marqué.
Ouais.
Alors que les fracs s'illusionnent en croyant que c'est en créant un climat aseptisé purement centrés sur l'œuvre qu'ils vont marquer les esprits. Non, c'est justement en mettant en tension entre le moins connu ou un artiste non encore reconnu dans les grands réseaux et une œuvre qu'on voit, et la qualité de l'artiste et l'accessibilité de ses œuvres.
C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on confond un petit peu la surface muséale, c'est-à-dire la surface physique, avec une espèce de temple. Et puis, en fait, ce que ça peut être vraiment, c'est-à-dire une surface muséale, mais qui n'est pas physique, qui est ce qu'on va pouvoir amener, justement, avec des interactions.
C'est
avec,
ça, c'est ça.
Et du coup, c'est presque devenu un temple interdit.
C'est ça, c'est ça. Et c'est très bien qu'on parle de ça. C'est fondamental qu'on parle de ça, je trouve. Donc, tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on dit aux jeunes qui sont entrés à l'école et qui commencent à réseauter, à collecter? Eh bien, d'être extrêmement exigeant, d'aller chercher ces œuvres de très haut niveau et de dire, voilà, nous, on les veut dans notre exposition, où on a ça et ça.
C'est difficile, mais c'est possible.
C'est difficile, c'est possible, et à force, ça va le faire.
Ouais, exactement. À plusieurs.
Voilà. Moi, je compte beaucoup sur l'insistance, que ce soit pas que nous, ou encore, peut-être une école. Alors, il y a une école qui demande des œuvres au FRAC, et on lui dit, alors, il faut vous payer un camion, gants blancs, tu sais, et tout, ce qui représente 3 ans de leur budget culturel. Mais puisqu'on est là-dessus, je veux te raconter quand même une histoire avec le FRAC. C'est que en 2011, nous faisions une exposition art textile contemporain.
Oui, je me souviens.
Et je voulais absolument avoir l'œuvre de Grau Garriga, qui est achetée au FRAC Lorraine en 1985, je crois. Eh bien, on m'a obligée à payer un camion professionnel avec gants blancs et technicien, ce qui représentait 2 ans de subvention. Donc j'en ai parlé à Rossino et à son adjoint culture, Laurent Hénard, à l'époque, qui était tellement choqué qu'il a dit « Moi, je paye ce camion avec ma réserve parlementaire. » C'est-à-dire que même là, même à cet endroit-là, d'une droite qui est pas spécialement militante, ça, c'est choquant.
Ouais,
c'est choquant. Et c'est te dire l'incompréhension totale qu'a l'exigence très professionnelle d'un FRAC déconnecté des réalités d'une petite asso qui a besoin de ce Grau Garriga pour dire dans notre région, il y a une œuvre merveilleuse d'un très grand maître qui venait de mourir justement à ce moment-là. Et nous voulons sortir. Et qu'est-ce que nous avons vu quand le camion gants blancs est arrivé devant la galerie et tout, que cette caisse n'avait jamais été ouverte depuis 1985, que nous étions les premiers à montrer ce chef-d'œuvre. Voilà. Donc, c'est aussi cet effet de vérité. Et je pense qu'il commence à travailler tout doucement, cet effet de vérité chez les différentes directions de FRAC. Cette énormité du trésor qu'il y a dans nos régions, et puis la difficulté à sortir les choses et ça.
Et du coup, si on est un artiste ou un réseau d'artistes comme ça, comment on peut savoir ce qu'il y a dans le FRAC de notre région?
C'est public. On clique. Mais alors, c'est public, mais d'une drôle de façon. C'est-à-dire que quand tu vas sur le site, je parle du FRAC que j'ai bien exploré, FRAC Lorraine, mais c'est peut-être en train de changer, mais bon. Tu cliques et tu as un petit signe qui s'appelle la collection de 1 à l'infini. Bon, déjà, il faut lire le signe infini. 1, flèche, infini. Et là, tu as par ordre alphabétique. Donc, tu cliques sur A, alors tu as Armand, et là, tu as une image sur ton écran qui peut pas s'agrandir, qui est très, très petite. Elle est faite pour ne pas être reproduite, je pense que techniquement ça peut s'expliquer, mais elle devient pixelisée très laide, ou même ça. Donc petite, par ordre alphabétique, pour nos centaines de milliers d'habitants qui à l'école n'ont pas appris les 720 noms des artistes contemporains. Alors c'est quoi ça? Alors ils vont faire Adami, Agam, voilà. Tu crois qu'ils vont arriver à mon Grau Garriga en voyant que c'est, il est aussi important que ta pièce pour l'art textile, que c'est, il y a pas, alors il faudrait, ensuite il faut faire cliquer sur la recherche, faire une recherche. Non mais. Et puis surtout, il n'y a pas un mot pour dire « vous êtes une collectivité et tout, demandez-nous, on arrive ». Alors je crois qu'il y a quelques fracs maintenant qui commencent à avoir cette attitude plus généreuse, plus ouverte, en disant « vous voulez une œuvre, venez ». Ou hein, je crois que sur le réseau général des fracs qui s'appelle « Plateforme », il y a eu un directeur à un moment donné qui a dit « bon, allez, il faut qu'on y aille, il faut qu'on diffuse plus ». Parce qu'au fronton des fracs, Jack Lang avait bien écrit, c'est un lieu de diffusion.
Oui.
On acquiert des œuvres tout doucement. Et ensuite, et immédiatement, en même temps, on diffuse.
Et oui, oui.
Et oui. Et donc, ce qui est gravé au fronton, c'est pas je suis amusée, tu vois.
Ouais.
Et je suis vraiment comme une fondation, c'est très privé. Et donc, moi, je suis pour qu'il y ait d'énormes quantités de demandes. Qu'à force, l'élu, le politique ait oui dire de ça. Parce que qui finance les grandes régions et l'État.
Mais ça ne peut pas venir du politique, il faut que ça vienne des fracs. C'est eux qui doivent communiquer.
C'est vrai.
C'est dans ce sens-là.
C'est vrai.
Parce que les politiques ont tellement, ou les associations ont tellement l'habitude d'être bloquées dès le départ. On leur dit, non, vous ne pouvez pas sortir parce que, tu parlais tout à l'heure des normes de sécurité, voilà. Donc, on ne va pas plus loin. Tant que les fracs ne communiqueront pas,
et puis en même temps,
ne se passera rien.
J'imagine que les fracs, comme tu disais tout à l'heure, ils sont pas tant que ça à gérer ça. Il y a tellement de boulot et tellement, c'est
devenu une usine. Voilà, ils ont des merveilles et trop peu de personnel pour assurer tous les jours, par exemple, la diffusion de 2-3 œuvres. Quand ils en diffusent 10 par an, c'est beaucoup.
Oui, oui.
Voilà.
Oui, parce que toute l'énergie de Défrac, en fait, elle est mise dans la
l'accueil des publics. Alors, en Lorraine,
l'archivage,
l'établissement des dossiers, politique d'acquisition, la diffusion dans des cadres extrêmement maîtrisés, voilà, mais pour toujours le même public. on n'a pas foule dans ces lieux-là. Et donc,
à aucun moment, les fracs ne font d'échanges ou de dépôts dans les musées,
par exemple. À Nancy, par exemple, quand tu rentres dans la grande salle à gauche, tu as l'œuvre de Georges Noël. Donc, c'est des fracs. Tu as 2-3 œuvres. Ça se fait de plus en plus. Actuellement, il y a eu un effort. Je dois reconnaître, là, depuis 3 ans, ou moins, on a quand même des œuvres déposées dans des lieux publics.
Voilà. Ouais.
Donc,
c'est en bonne voie, quoi.
Oui, oui, ils se rendent compte quand même que voilà, tout ça doit sortir des réserves. D'ailleurs, ils payent un prix fou pour les réserves. Donc, c'est quand même beaucoup plus intéressant de voir les œuvres accrochées quelque part plutôt que de payer des loyers de réserves.
Oui, tout à fait.
Non, on est dans une période intéressante et où, à la fois du côté des fracs, doit y avoir une modification et une pression exercée par les demandes.
Ouais.
Je pense que...
Bon, faut travailler ensemble.
Voilà, faut travailler ensemble. Restons groupés, mais restons travailleurs et demandeurs.
C'est ça. Bon, du coup, pour finir, est-ce que, en tant qu'artiste, on peut déposer des œuvres?
Oui, avec plaisir.
Alors, comment on fait?
Nous avons une fiche de dépôt que nous allons t'envoyer, une fiche numérique où tu vas pouvoir mettre l'image de l'œuvre que tu souhaites nous confier. Il faut qu'elle soit solidement encadrée, Ça, c'est sûr, elle va vivre chez les gens.
Oui, bien sûr.
Voilà. Il faut qu'elle arrive dans une pochette dédiée, une pochette bulle.
Ouais,
bien au format que tu as fait et qui sera celle-là et pas utilisée pour une autre œuvre, ça sera la tienne.
Très bien.
Voilà. Ton œuvre, dans le principe, elle est chez nous pendant 2 ans, mais tu peux la reprendre à tout moment. C'est-à-dire qu'on attend la fin du prêt en cours et tu la reprends. Ce qui vient de nous arriver avec un jeune artiste, il y avait une exposition, il a tout repris, Virgile Devin, puis il va nous ramener les choses. Voilà.
D'accord.
Et puis nous avons un mur focus, donc dans l'entrée, dans notre galerie, on a gardé un grand mur de 4 mètres par 4 mètres vide, et qui accueille des mises en valeur, des focus, soit sur l'artiste en résidence, c'est actuellement le cas avec Sophie Chazal, soit des œuvres que nous avons. Les mois prochains, nous ferons un bel accrochage d'œuvres de notre fonds.
D'accord.
Et puis, plus 4 lundis par an, donc là, le 1er juillet, un lundi, soir à 19h, nous avons des rencontres autour d'œuvres que nous ne pouvons pas prêter. Par exemple, des livres d'artistes. Donc, le 1er juillet, autour de la table, on sortira avec des grands blancs, des livres d'artistes, des choses précieuses que les gens voient. Les deuxièmes et autres lundis, des thématiques et autre chose. Voilà.
Très bien.
Tout ça est sur le site.
Donc le site, c'est
asso379.wix.com/art contemporain.
Parfait. Donc je mettrai le lien en
voilà.
description. Et ben, je vous remercie à toutes les deux.
Ben, merci Leslie.
Merci Leslie.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à le dire, à l'interviewer dans ses réseaux sociaux. Je vais mettre les liens en description. Ça lui fera super plaisir, ça permet de faire savoir que l'art, c'est les autres, est écouté. Et puis vous-même, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à faire des feedbacks, c'est hyper important pour moi. À proposer des invités aussi, ou des sujets qui vous intéressent. Et puis je ferai mon possible pour vous répondre et échanger avec vous. Si vous êtes artiste et que vous avez envie de nous rejoindre dans le collectif Pigeon et Hirondelle, n'hésitez pas à nous laisser un message sur Instagram ou sur Facebook, donc pigeon.hirondelle, le tout au pluriel, ou bien sur notre site www.pigeon-hirondelle.fr. On sera super content d'en parler avec vous, de vous présenter toutes nos actions et pourquoi pas de vous compter parmi nous. Si vous connaissez quelqu'un à qui ce podcast peut plaire, je vous invite évidemment à le partager sur les réseaux. Ça permet à de plus en plus de gens de connaître le podcast. Et puis moi, ça me fait du bien. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.